jelly roll baker, let me be your slave. When Gable blows his trumpet, then I'll rise from my grave for some of your good jelly roll. Yes, I love good jelly roll. It is good for the sick. Yes, and it's good for the old. I was sent for murder in the first degree. The judge wife called up and said, let that man go free. He's a jelly roll baker. He's got the best jelly roll in town. He's the only man can bake jelly roll with his damper down. A man was in the hospital, shot full of holes. The nurse left the man dying and said she got to go and get a jelly roll. It's good old jelly. She said, I love my good jelly roll. She said, I'd rather let him lose his life than to miss my good jelly roll.
Salut à tous, c'est Sweet Home Chicago, numéro 856. Aujourd'hui, émission un petit peu historique parce que spécial Robert Johnson. On aura l'occasion d'évoquer la mémoire de ce garçon né en 1911, le 8 mai exactement, et puis qui nous a quittés très prématurément en 1938. Voilà, il aurait 100 ans demain. C'est un peu pour ça que Sweet Home Chicago a décidé de lui rendre hommage aujourd'hui avec quelques invités qui vont se présenter tout à l'heure, à savoir Jean-Christophe Panucco des Witch Doctors et Laurent Choubrac de Midwest. On aura également au téléphone Jacques Garcia, qui nous vient de la région lyonnaise, qui est président de Black Jack Blues Association, qui célébrera à sa manière le centième anniversaire de Robert Johnson à Sainte-Colombe, dans le 69, hein, donc dans la région de Lyon, avec la venue de son petit-fils à Robert Johnson, Stephen Johnson, et celle de David Evans. Voilà, on vient de démarrer avec le disque coup de cœur du mois. Oui, on a changé de mois. Hein. Maintenant, c'est l'album Chicago Blues à Living History, The Revolution Continues chez Resin Music. C'est le volume 2. On avait eu droit à un volume 1 déjà, d'où l'album à l'époque, c'était il y a 2 ans. Ça a été produit par Larry Scholler. C'est encore le cas aujourd'hui. Le chanteur qu'on vient d'entendre, c'est Billy Boy Arnold. Et puis, sur cet album figurent également John Primer, Billy Branch, Lurie Bell, Carlos Johnson. Et puis, quelques invités de marque et pas n'importe lesquels. Magic Slim, James Cotton, Buddy Guy. On retrouve également Mike Avery, Zora Young et Ronnie Baker Brooks. C'est édité chez Resin Music et normalement courant juin lors d'un Sweet Home Chicago, je devrais pouvoir vous proposer l'interview en direct live de Larry Scholler, le producteur de ces deux albums. Voilà, en plus il est francophone à la perfection, donc ça va être très facile. On continue avec une nouveauté, ensuite je vous présenterai le disque de la semaine et puis après on plongera directement dans l'atmosphère de Robert Johnson. Voici une petite plongée à la Nouvelle-Orléans grâce à un garçon qui s'appelle Hugh Laurie. Ce nom ne vous parle peut-être pas, mais si vous connaissez le Dr House à la télé, ben c'est le même. Son album s'appelle Let Them Talk. Il s'est entouré de pas mal de très bons musiciens, dont par exemple Dr. John, mais il y en a d'autres. Et on va écouter You Don't Know My Mind, Monsieur Uglory dans Sweet Home Chicago. Cool avec Billy Boy Arnold, puis Uglory, extrait de l'album Let Them Talk chez Warner Bros. Records. Voilà, c'est Sweet Home Chicago numéro 856. Vous êtes en train de vous installer tranquillement. Nous aussi, de l'autre côté du poste, il y a également Laurent Choura qui vient d'arriver. Il y a Jean-Christophe Panico, il y a Jérém Le Coufflet. Il y aura peut-être d'autres personnes tout à l'heure. Il y a un petit peu de vin du diable, il y a des pizzas aux champignons, tout va bien. C'est parti pour 3 heures de direct live jusqu'à 16h aujourd'hui. Oui, 13h, 15h d'habitude. Et bien là, ça va être 16h parce que si on veut passer tous les disques qu'on a prévus, et encore, je me demande s'il n'y a pas. Enfin, on va bien voir, c'est du live. Donc, on continue avec le disque de la semaine. Et oui, il y a quand même un disque de la semaine. C'est celui de Lucky Peterson, Every Second a Fool is Born. Donc, voilà, un superbe album de Lucky Peterson. C'est pas forcément le cas de tout ce qu'il a fait depuis une vingtaine d'années. C'était suffisamment rare et appréciable pour le souligner, quoique son précédent était très très bon aussi. On retrouve Tamara Peterson, son épouse au chant, sur un titre. On retrouve également Raoul Valdez à la batterie, Big Nigel aussi à la basse, Todd Parsnow à la backing guitar. Je ne sais pas ce que c'est que cet instrument-là, la backing guitar, il va falloir m'expliquer. Lucky Peterson sur tous les autres instruments, à savoir le chant, la guitare et les claviers. Voici un extrait, ça s'appelle Baby Please. Thank you. Voilà, monsieur Lucky Peterson en grande forme, on s'en réjouit. Lucky Peterson à travers son album Every Second a Fool is Born, le titre Baby Please, bien sûr, chez JSP Records. Disque de la semaine pour ce 856e Sweet Home Chicago, quasiment entièrement consacré à la mémoire de Robert Johnson. Si vous arrivez seulement maintenant, sachez que demain, Robert Johnson aurait eu 100 ans, pile. Il est né le 8 mai 1911. C'était un guitariste et chanteur de blues américain. Il est décédé le 16 août 1930. 38, c'est la cause de sa mort est sujet à controverse. Il y a toute une légende qui tourne autour de la vie, de la mort et de l'œuvre de Robert Johnson. On aura l'occasion d'évoquer ça avec nos invités aujourd'hui. En quelques mots, c'est devenu une légende et une grande source d'inspiration pour des artistes très très variés. Ça va de Jim Hendrix à Stone et Chardin. C'est à peu près toute la palette. C'est immense. C'est un guitariste qui a été classé, je crois, à la 5e position des plus grands guitaristes de tous les temps, selon le magazine Rolling Stone, juste derrière Jimi Hendrix, Duane Allman, B.B. King et Eric Clapton, mais juste devant Chuck Berry, Stevie Ray Vaughan, Ray Cooder, Jimmy Page et Keith Richards. Tout ça ne veut pas dire grand-chose, bien sûr. Il fait partie également du Club des 27, alors Club des 27, qu'on appelle aussi le Forever Club, le 27 Club ou le Club 27, est un terme populaire qui regroupe des musiciens de rock et de blues, tous décédés à l'âge de 27 ans. Vous allez voir qu'il n'y a pas que lui, il y a également Brian Jones, qui était noyé dans sa piscine en juillet 69. Brian Jones qui était le prédécesseur de Ron Wood au sein des Rolling Stones, faut-il le rappeler. Il y a également Alan Wilson qui a fait partie de Canet It, qui est décédé en 1970, septembre 70 également pour Jimi Hendrix. Alan Wilson, c'était une overdose. Jimi Hendrix, alors on va dire la version officielle, c'était asphyxie suite à une overdose. En fait, il s'est étranglé dans son vomi. Janis Joplin en octobre 70, overdose d'héroïne, ça c'était prouvé. En juillet 71, toujours à l'âge de 27 ans, Jim Morrison, crise cardiaque. Et puis, un peu plus proche de nous, le 5 avril 94, un suicide par balle de Kurt Cobain, chanteur guitariste et co-fondateur de Nirvana. Voilà, il y a donc cette liste-là qui avait démarré fort lugubrement à certains Robert Johnson. On va écouter la musique de Robert Johnson très largement, et puis on va écouter aussi tous les petits qu'il a fait par la suite au cours des 70 années qui ont suivi quasiment, avec beaucoup de d'électrique, beaucoup d'acoustique. Il y aura également du live en studio grâce à l'ami Jean-Christophe Panuco de Witch Doctors et à Laurent Choubrac de Midwest, qui ont apporté chacun leur guitare, qui vont nous faire des morceaux, voilà, morceaux surprises bien sûr de Robert Johnson. Vous restez confortablement installé, on démarre fort opportunément avec un titre que vous connaissez tous, Sweet Home Chicago, version originale 1936.
Chicago. I'm fixing to his eight, getting to his going to California from 30 miles away. Somebody will tell me that you need my help someday, son. Hey, hey, baby, don't you want to go? Hey, to the land of California, to my sweet home, Chicago.
Voilà, aujourd'hui on a du temps, donc on va écouter les morceaux en entier, s'il vous plaît. On va essayer de pas chater la fin. Je suis très heureux de recevoir deux amis du blues, à savoir Laurent Choubrac. Ça va, Laurent ?
Salut Marc, salut à toutes et à tous. Ben, ça va très bien.
Et Jean-Christophe Panucco.
Salut Marc, salut les amis.
Et puis, tu t'es pas pris de micro, Jérôme ? Non, tu vas pas parler tout de suite. D'accord, on va faire ça. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Voilà, ah ben, vous êtes là confortablement installé. Je vois qu'il y a un guitariste gaucher, un guitariste droitier. C'est juste pour faire la symétrie, c'est exprès, Laurent ?
Oui, genre, et puis on s'est mis dans le bon sens, parce que des fois on inverse et là ça fait mal aux manches.
C'est l'effet Beatles, tu vois.
Tout ce qui fait mal aux manches fait pas forcément mal.
Oui, non, c'est bon. Non.
Laurent, dis-moi, comment est-ce que tu as. Quand et comment as-tu entendu parler de Robert Johnson pour la première fois ? Est-ce que tu t'en souviens d'avance ?
De façon nette, non, pas vraiment. Mais par contre, je peux te dire, c'est en te montrant le disque. Alors, je sais que c'est pas très visuel, mais je te montre.
Ah, mais si, parce qu'il y a une caméra qui est sur toi. Alors, regarde la webcam, voilà.
Donc voilà.
On te voit.
Donc, je montre le disque des Stones qui s'appelle Let It Bleed.
On le voit.
Hein, qui a été un de mes premiers émois musicaux rock'n'rollesques.
Et moi.
Et du coup, dessus, il y a un morceau qui s'appelle Love in Vain. Mm-hmm. Que les Stones d'ailleurs n'avaient pas attribué à Robert Johnson, ils avaient appelé ça traditionnel arrangement Stones.
Les salauds.
Ils étaient assez forts dans le domaine. Et bah voilà, quoi, j'ai découvert ça. Et puis peut-être pas dans l'immédiat, mais quelques temps après, dans mes recherches, j'ai appris que c'était un certain Robert Johnson qui avait écrit ça.
Donc tu voilà, es arrivé à Robert Johnson par les Stones, par le rock, comme beaucoup d'entre nous, j'allais dire. Voilà, en quelques mots. Et toi, Jean-Christophe, même parcours
À peu près le même parcours. Moi, j'habitais dans un bled où, bien avant Internet, au début des années 90, on avait beaucoup de mal à écouter du blues. Et il y avait, je me souviens très bien, un jukebox CD quand même, qui diffusait en boucle une compile de Clapton, qui s'appelait The Cream of Eric Clapton.
Un jukebox CD, c'est vrai que t'es né en 98, toi, donc forcément.
78. Et il y avait Crossroads qui passait en boucle, ouais. Et donc je voyais dans le crédit Robert Johnson, et j'ai eu une chance, j'ai commencé à m'intéresser au blues l'année même où est sortie la réédition des Complete Recordings de Robert Johnson, donc ça doit être 90-91, donc j'ai bénéficié également de la campagne de pub, et puis quand j'ai mis ça au casque sur les oreilles, ça a un petit peu changé ma vie.
Bah oui, parce que cet album-là, The Complete Recordings, c'est le must, c'est-à-dire qu'il faut savoir que Robert Johnson a enregistré 29 morceaux, bon, il en avait fait un 30e, on en parlera plus tard, il y avait 41 prises en tout, et je crois que quand on possède ce double album, on possède les 41 prises, c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément écouter tout d'un coup, hein, parce qu'on a droit à deux fois surtout, beaucoup de titres, hein. Little Queen of Space, Me and the Devil Blues, etc.
Mais avec des changements super significatifs sur le tempo, la musique, le texte, donc on voit toute la créativité du bonhomme, quoi, finalement.
Oui, et puis on s'aperçoit également que c'était pas un costaud en géographie, parce que situé Chicago en Californie, ça a beaucoup fait débat, ça. C'est vrai qu'à l'époque, Chicago c'était un peu le pays de cocagne, hein, pour le petit black qui habitait dans le Mississippi, et la Californie, ça représentait dans les années 30 déjà la MGM, quand je dis la MGM, oui, c'était les débuts du cinéma parlant, hein, attention, on se situe dans cette époque-là, fin des années 20, début des années 30, et puis quand même, dès 1849, il y avait eu la ruée vers l'or, et la Californie, ça représentait quand même
l'Eldorado,
exactement, la terre promise. Je sais pas si on est toujours conscient de ça maintenant, qu'est-ce que représentait finalement la richesse et la pauvreté à l'époque de Robert Johnson, c'est-à-dire on est entre deux guerres là, hein. Il est né en 1911, il est décédé en 1938. On va avoir l'occasion de parler un petit peu de sa biographie, de son enfance. C'est un garçon qui n'a pas eu de chance dans la vie, hein. C'est quelque chose de très très banal à dire. Mais est-ce qu'on se rend vraiment compte, est-ce que vous Laurent, Jean-Christophe, en tant que musicien de blues 2011, est-ce que vous pensez qu'on a comme ça la perception de ce que pouvait ressentir le bluesman de l'époque ? Laurent, peut-être ?
Bah, je pense qu'on s'en rend compte, peut-être pas au départ, moi quand j'ai connu ce type de musique, non, il a fallu aller chercher, entendre les choses, lire les histoires sur le blues pour se rendre compte un peu de ce que c'est, enfin, de ce que c'était, et ce que c'est encore aussi d'une certaine manière maintenant, hein, parce que les États-Unis c'est quand même encore la terre des contrastes, hein, être bluesman aux États-Unis, peut-être que c'est un peu plus simple qu'il y a 70 ans, mais
probablement.
Mais c'est pas toujours simple non plus, quoi. Hein. C'est pas les gens qui roulent le plus sur l'heure pour le coup.
C'est clair.
Et puis je pense qu'il y a une donnée qu'il faut pas oublier, parce qu'on a tendance à accentuer toujours le mythe de Robert Johnson. C'est quand même un garçon qui n'a eu aucun succès commercial.
Oui, je crois qu'il y a juste eu de mémoire Terra Plein Blues, je crois qu'il
a fait un petit carton marché dans le sud, mais il a pas du tout eu le succès commercial à l'époque de Kokomo Arnold, de Big Bill Bronzy, qui maintenant sont un petit peu plus oubliés finalement, mais qui l'ont largement influencé. Quoi.
Oui, mais ce sont des noms qu'on retrouve, hein, quand on s'intéresse un tant soit peu à la vie de Robert Johnson. Ce sont des noms qui sont d'ailleurs cités dans un petit bouquin qui m'a en partie servi pour préparer cette émission. C'est celui de Peter Guralnik, À la recherche de Robert Johnson, qui a été édité chez Castor Music, hein, donc en French dans le texte. Hein, Jean-Christophe, je sais que toi tu lis l'anglais couramment. Tu dois t'amuser quand même à retrouver des textes comme ça dans le texte original avec le vrai vocabulaire. Tu l'as lu en anglais, ce bouquin-là ?
Ouais, je l'ai lu en anglais, comme les autres bouquins de Peter Guralnik qui a consacré deux gros tomes à la biographie d'Elvis. Et il y a pas mal de bouquins très sympas. Il y a une bio de Muddy Waters. Il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont assez agréables à lire dans le texte, effectivement, pour le côté savoureux du langage du Sud, quoi.
On va écouter les morceaux de Robert Johnson. Il en a fait 29 en tout. On va peut-être pas forcément écouter toutes les versions originales. On va pas écouter, bien sûr, toutes les reprises, parce que c'est absolument impossible. Mais ça va nous occuper pendant un bon moment quand même.
On pourrait déjà faire une émission rien que sur le titre Crossroads, je pense.
Ouais, c'est un des plus repris, tout à fait. D'ailleurs, je me suis amusé à rechercher dans ma disco, mais j'ai pas encore fait le tour, mais c'est pas grave. Il y a 4 morceaux comme ça dont j'ai pas pu retrouver de reprises. Je sais pas si c'est le cas pour vous. Drunk Hearted Woman, tu as
Peter Green.
Très bien. Little Queen of Spades.
J'ai Robert Clapton.
Robert Lockwood aussi. Ouais.
On est complémentaires, c'est incroyable. Dead Shrimp Blues.
Ouais, Peter Green aussi. Ouais.
Pas possible. Il m'en manquait un quatrième. Honeymoon Blues.
Le Peter Green.
Voilà. Eh ben,
il a tout enregistré, Peter Green, hein, c'est facile. Deux CD. Ben,
on a au moins tous les 29 morceaux repris au moins une fois. On va écouter la version originale de Kind Hearted Woman Blues, parce qu'il y avait plein de façons d'entrer dans cette émission. Moi j'ai choisi la version chronologique, c'est-à-dire qu'on va débuter par la toute première séance d'enregistrement de Robert Johnson. C'était à San Antonio, le 23 novembre 1936. À savoir qu'il a vécu toute sa vie dans le Mississippi, mais il a fait deux fois des enregistrements, on va dire, en 36 et en 37, uniquement au Texas. C'était à San Antonio et à Dallas. Le 23 novembre 36, il a enregistré Phonograph Blues, Terra Plane Blues, qui a fait un succès à l'époque sur 78 tours, Come on in my Kitchen, When You Got a Good Friend, Rumbling on My Mind, Sweet Home Chicago, qu'on vient d'entendre, I Believe I Lost My Room, qui a ensuite été repris et attribué à tort à d'autres, et puis Kind Hearted Woman Blues, dont on va écouter respectivement la version originale, puis celle de Dave Thomas et de Wallace Coleman. À tout à l'heure.
I got a kind-hearted woman, anything that's worth for me. I got a kind-hearted woman, anything that's worth for me. They will not let me be. One thing makes Mr. Johnson dream. I swear about how you treat me, baby. I begin to think, oh, baby.
is evil all the time. She's a kind-hearted woman, she studies evil all the time. She wants to kill me, has to have it on your mind.
You treat me, baby.
Voilà, extrait de l'album Repossession Blues par Dave Thomas avec un special guest, monsieur Wallace Coleman. Donc, un enregistrement récent, hein, 2008, avec ce titre-là. J'essaie de suivre en même temps. Kind-Hearted Woman, voilà, bien sûr. On y va chronologiquement. On reste dans cette séance studio du 23 novembre 1936 de Robert Johnson à San Antonio avec I Believe I Dust My Room. Un morceau, là, je me tourne vers nos compères Jean-Christophe et Laurent. Dust My Room, au départ, on ne pensait pas que c'était Robert Johnson, tellement il avait été phagocyté. Hein,
par Elmore James.
Ouais, moi, je pense, James. Voilà, moi j'ai toujours cru que c'était Elmore James.
Il y a un petit truc marrant quand même sur le Dust My Room, c'est que le fameux riff de Dust My Room.
Yes.
En fait, si tu écoutes les enregistrements de Robert Johnson, c'est un riff qui fait sur Ramblin' on My Mind. Et Elmore James a pris le riff de Ramblin' on My Mind et a collé le texte de Dust My Room, ce qui est marrant.
Ouais. Bah, on va écouter Ramblin' on My Mind juste après celui-là. On va écouter I Believe I Dust My Room, un morceau qu'on retrouve sous le titre tout simplement de Dust My Room. Alors, le double entendre dans le blues, c'est bien connu, mais...
Épousseter mon balai,
moi, parce que mon balai, ou... je vois pas trop de quoi il veut parler.
C'était quelqu'un de très ordonné, très propre.
C'est ça. Bien sûr. Voilà, Robert Johnson qui est né dans le Delta du Mississippi, dans le village de Hazelhurst, de sa mère Julia Dodds et de Noah Johnson, son papa. Alors sa date de naissance précise, bon ben c'est le 8 mai, mais l'année de naissance n'est pas connue avec précision, parce qu'il y a plusieurs versions. On vous retrouve selon les versions 1911, plus sûrement on va dire. 1909 et 1912 sont également des années proposées, bien que courtes, donc sa carrière de bluesman aurait été prolifique. Et c'est vrai que 29 morceaux, je crois qu'il n'y en a pas eu un seul qui n'a pas été repris, hein, on en fait la liste tout à l'heure. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres. Alors qu'il était encore nourrisson, sa mère et sa sœur Bessie quittent son père et vivent sur la route, travaillant d'un champ à l'autre pendant plusieurs saisons avant de s'établir à Memphis chez un certain Charles Spencer. Alors lui, il est important dans sa vie, Charles Spencer. Il vit alors avec sa femme et sa maîtresse et les enfants de chacune d'entre elles. Ah, voilà, c'est drôle de mœurs, hein, bien qu'aucune tension n'ait été relatée entre les deux femmes, ce qui est quand même un peu bizarre. La mère de Robert Johnson quitte la maison des Spencer sans ses enfants. Donc voilà, ça sent un petit peu Les Misérables, cette histoire, hein. Robert vit à Memphis chez Charles Spencer jusqu'en 1918, donc il a 7 ans, hein, d'après la biographie générale, date à laquelle le caractère obstiné de Robert convainc son hôte que la présence de sa mère pour l'élever s'avère nécessaire. En clair, il est insupportable, le gamin. Donc Robert, qui a pris le nom de Spencer, part pour Robinsonville, une communauté cotonnière du nord du Mississippi, à 20 miles au sud de Memphis. Il faut savoir que quand tu vas du Mississippi jusqu'à Memphis, tu changes d'état, tu vas dans le Tennessee, mais la ville de Memphis touche le Mississippi, c'est juste à côté. Donc là, il y passe la fin de son enfance, en compagnie de sa mère et de son nouveau beau-père, Willie Dusty Willis, qui a épousé sa mère en octobre 1916. Voilà, j'espère que vous suivez toujours.
Je fais un génogramme, là, parce que sinon...
Il va falloir. C'est à cette époque que Robert Johnson s'intéresse à la musique. Alors ça, c'est intéressant. Il faut savoir que premier essai musical, c'est avec la guimbarde. Hein, il abandonne rapidement, heureusement, hein, au profit de l'harmonica, et oui, qui devient son instrument principal à l'époque. C'est également pendant son adolescence qu'il apprend l'existence de son véritable père et commence donc à se faire appeler Johnson, hein, par réaction. Moi, j'aurais fait pareil. Il continue cependant à utiliser le nom de Spencer jusqu'au milieu des années 20, notamment à l'école. L'école qu'il quitte rapidement. Alors, on me dit ici à cause de problèmes de vue.
Ça veut dire qu'il est au fond de la classe. Donc
ça doit être ça. C'est ça. Voilà. C'est du vécu, ça, Laurent, ou non,
oui, c'est... Ouais.
Alors, les débuts musicaux, à la fin des années 20, hein, il se met à la guitare, il se confectionne un support pour son harmonica, pour utiliser deux instruments en même temps. Et puis, là, on retrouve Leroy Carr un petit peu dans son parcours. C'est la chanson de Leroy Carr qui s'appelle How Long Blues, qui semble être une de ses favorites pour s'exercer à la musique. Donc, dans ses débuts de musicien à Robinsonville, il reçoit l'aide de Willie Brown et de l'inévitable Charlie Patton, notamment Charlie Patton, dont on parle beaucoup quand on étudie à tant soit peu l'histoire de la jeunesse du blues. Bien que Robert se passionne pour la musique, il ne se considère que comme un paysan quand il épouse à son tour, lui, en février 1929. Rappelons qu'il a à peine 18 ans, hein. D'après la biographie, Virginia Travis, il l'épouse à Penton dans le Mississippi. Il s'installe alors dans une maison en compagnie de la sœur aînée de Robert, Bessie, donc, et de son mari, le mari de Bessie, hein, voilà, sur la plantation de Klein à l'est de Robinsonville. Et Virginia tombe enceinte durant l'été 1929, mais elle meurt à 16 ans avec son enfant lors de l'accouchement en avril 1930. Voilà, on va s'arrêter à 1930 et on va aller voir un petit peu ce que donne l'époustage du ballet, version Robert Johnson, et puis après on écoutera une version intéressante d'un certain Eddie Kirkland.
I'm gonna get up in the morning, I believe I'll dust my broom. I'm gonna get up in the morning, I believe I'll dust my broom. Get my room. I'm gonna write a letter, telephone every town I know. I'm gonna write a letter, telephone every town I know. If I can't find in West Elma, she must be in East Monroe, I know.
On the street, I believe I'll dust my broom. Don't get up in the morning. Believe I'll dust my broom. You're not black man, you beloved. You ain't no Frank and I'm my room.
Version et version de Eddie Kirkland, pardon, sur une compilation qui va pas mal nous servir au cours de cette émission, qui s'appelle Dealing with the Devil, une compilation qui était sortie en 2000 chez Cannonball Records, Dealing with the Devil Songs of Robert Johnson, avec quelques invités. Écoutez les garçons, il y a dessus Debbie Davis, Guy Davis, Sue Foley.
Ah.
J'ai fait exprès de commencer par les filles. Paul Jeremiah.
Guy Davis va être ravi.
Non mais Guy, Corey Harris, Eddie Kirkland. Non, heureusement qu'on ne fait pas de la télé.
Ça fait 9 mois qu'on
Eddie Kirkland, donc on vient d'entendre. Colin Lindon, Kenny Neal, Pinetop Perkins, Dave Van Ronk, Joshua Jr. et Chris Whaley. Voilà, hein, quand même. Donc voilà, ça nous servira pour éventuellement les versions qu'on n'a pas par d'autres. Et puis il y a un morceau qui me paraissait à peu près évident de passer au cours de cette émission en hommage à Robert Johnson. C'est un extrait de l'album de Honey Boy Edwards, qui est un des rares garçons à avoir côtoyé Robert Johnson et qui soit arrivé jusqu'à nous. Honey Boy Edwards qui nous a quittés il y a très très peu de temps. Oui, il est mort. Non, il n'est pas mort.
Je crois pas.
On m'aurait menti.
Pinetop est mort.
Oui, Pinetop, oui. Mais
je crois pas qu'il soit mort.
Tiens, on va poser la question.
Lance un sondage Facebook. Demande.
On va faire exactement. Amis de Facebook, là, dans la série, j'ai encore un trou de mémoire. Est-ce que tu peux me rappeler la discographie, la biographie de Honey Boy Edwards? Voilà, l'album s'appelle Mississippi Delta Bluesman. Il est sorti il y a pas très longtemps. C'est en 2001-2002 chez Smithsonian Folkways Recordings. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il reprend dans la même plage Sweet Home Chicago et Dust My Boom. Et puis ensuite, on écoutera d'autres versions de Sweet Home Chicago. Honey Boy Edwards. California.
Chicago. I don't drink it cause I'm dry, babe. I drink it cause I'm blue. I tried pretty well this morning. I can't get along with you. I said, hey, baby, don't you wanna go like California, sweet home Chicago.
Dust My Broom plus Sweet Home Chicago, Monsieur Honeyboy Edwards. De toute façon, il nous écoute pas là, hein, c'est pas grave. Désolé hein, pour les fans de Honeyboy Edwards. Je viens de vérifier, il est encore de ce monde. Il est né en 1915, c'est un jeune homme.
Ah bah voilà.
Hein. Oui, Laurent, tu voulais ajouter.
Jeune homme comme Hervé Villard, mais il est pas né en 1915, mais il est toujours vivant.
Ça me rappelle quelque chose. Très bien. On était resté en 1930 à propos de la biographie de Robert Johnson. On ne va pas vous abreuver de chiffres ni parler trop longuement. On écoutera beaucoup de musique au cours de cette émission, je le pense. Puis on va écouter également de la musique live. Mais on va quand même parler de ce fameux pacte avec le diable parce qu'en 1931, il rencontre Son House pour la première fois. Et il l'écoute jouer et puis il dit bah, vraiment, c'est même pas la peine que tu joues de la guitare. Quand tu fais fuir les gens, laisse tomber. Quoi. Il lui conseille carrément d'abandonner la guitare pour se concentrer sur l'harmonica et non pas sur la guimbarde. Et peu de temps après, Robert Johnson quitte Robinsonville pour revenir dans sa ville natale de Hazelhurst, dans laquelle il espère retrouver la trace de son véritable père. Et à Hazelhurst, il tombe entre les mains du bluesman Ike Zimmerman, rien à voir avec Robert Zimmerman.
Ni avec Ike Turner d'ailleurs.
Non plus. Ike, donc, qui devient son mentor. Par ailleurs, étant beau garçon, il ne met pas beaucoup de temps à rencontrer une nouvelle femme. Je vous rappelle qu'il est quand même veuf et qu'il a eu un enfant mort-né dès l'âge de 18 ans, ce garçon, hein, quand même. Donc, il ne met pas beaucoup de temps à rencontrer une nouvelle femme. Il s'appelle Caletta Kelly Craft, de 10 ans son aîné. Il l'épouse d'ailleurs en secret, en 1931. Elle idolâtre beaucoup Robert Johnson. Elle s'occupe de toute son intendance. Elle cuisine, elle travaille pour lui. Enfin, c'est carrément sa secrétaire. Hein. Ça laisse beaucoup de temps à Robert pour travailler la musique auprès de Ike Zimmerman. Donc, et le samedi soir, il se rend dans les tavernes, parfois accompagné de Callie, sa femme, pour jouer toute la nuit. Il commence à leur obtenir un certain respect en tant que musicien et il se fait un nom sous les initiales de RL pour Robert Lonnie, du nom d'un musicien également bien connu, Lonnie Johnson. Hein. Je vois. Vas-y, Jean-Christophe. C'est ça, hein. Lonnie Johnson. C'est le début d'un titre de Lonnie Johnson, ça.
Non, bah c'est, hein, c'est non son style.
C'est son. Très bien. Et il revient finalement à Robinsonville, 2 ans après l'avoir quitté. Donc, Son House, 2 ans après, est abasourdi par les progrès réalisés par le guitariste, avouant moi-même qu'il est maintenant lui-même complètement dépassé. Hein. Ce serait peut-être le pacte avec le diable, on va voir ça. C'est à cause de ces progrès stupéfiants, justement, que la légende du pacte avec le diable va naître à une époque où le vaudou est encore très vivace dans la communauté noire du Mississippi. Alors, Robert Johnson, il va profiter de cette occasion-là pour mettre en place la légende. Et un jour, il réunit quelques amis au coin d'un bois et leur raconte ce qui va devenir sa légende. Un soir très sombre, alors qu'il se promenait dans les alentours de Clarksdale, dans le Mississippi, il se perdit à un carrefour, un crossroads, alors qu'il commençait à s'endormir, une brise fraîche le réveilla, il vit au-dessus de lui une ombre immense avec un long chapeau. Effrayé, ne pouvant envisager cette apparition, Johnson resta comme paralysé. Sans un mot, l'apparition se pencha, prit sa guitare, l'accorda, joua quelques notes divines avant de lui rendre l'instrument et de disparaître dans le vent noir du sud. Voilà, c'est un petit peu romancé tout ça. En réalité, cette légende provient d'un autre bluesman, donc Tommy Johnson, hein, qu'on vient d'évoquer, qui prétendait avoir vendu son âme au diable un soir à un carrefour pour obtenir sa virtuosité à la guitare. Robert Johnson aurait donc repris cette histoire à son compte, à moins que Tommy et lui, portant le même nom Johnson, elle ne lui était attribuée à tort. Donc voilà, il y a encore pas mal d'ombre dans cette histoire-là. Cette légende et le personnage de Tommy Johnson apparaissent dans le film des frères Cohen, Oh Brother. Qui n'a pas vu Oh Brother? Je me tourne vers vous, les garçons.
Je l'ai vu.
Ah oui, bah, bien sûr, les frères Cohen. Jérém aussi. Ah, t'as pas de micro, on va te donner un micro, Jérém, attends. Jérém, voilà, maintenant t'as un micro, t'as plus d'excuses. Les frères Brothers, ça te parle?
Non.
Non? On va te prêter le DVD.
On va te prêter quelques DVD, voilà. Frères Cohen, pour faire ta culture.
On va parler un petit peu de discographie, mais également filmographie. Hein. C'est vrai que Crossroad, par exemple, hein, de 1984 ou 86, c'est quelque chose.
Avec la bande-son d'un certain Ray Cooder.
Ray Cooder, exactement. Voilà, donc cette fameuse légende du Crossroads. Et puis le scénariste de la série Supernatural également, qui raconte la longue épopée des deux frères à travers les États-Unis, qui cherchent à venger la mort de leur mère, assassinée par un démon, qui s'est longuement donc inspiré de cette légende. Voilà, le carrefour en question, c'est le sujet central de l'un des épisodes de la série où il est question d'un jeune musicien noir cherchant à devenir absolument l'un des meilleurs bluesmen de sa génération. À plusieurs reprises au long des épisodes, divers personnages de la série se rendront à cet endroit afin de rencontrer une employée de l'enfer pour passer un pacte. On n'est pas loin non plus de Samuel L. Jackson dans Black Snake Moan. Tu connais Black, oui, Snake Moan, Jérém? Je crois que oui. Hein.
Ça aussi, bah moi, je ne l'ai pas vu. Hein.
Non,
bah un échange de procédé.
Vous allez faire un échange de DVD. Alors. On va continuer avec quelques versions de Sweet Home Chicago. C'était absolument impossible de choisir parmi la bonne centaine de versions que je pouvais posséder, puis toutes les milliers d'autres que je ne posséderai jamais. Donc, on va en écouter quelques-unes et puis on va s'amuser à essayer de les reconnaître. Ça va permettre peut-être à ceux qui sont du côté du Facebook de me dire, tiens, de qui sont ces interprétations-là du même titre. On a écouté tout à l'heure Honey Boy Edwards, en voici 5 autres, je vous les donne dans le désordre. On va écouter juste des extraits, hein, les deux, on va dire les 2 premières minutes de chaque titre, et on se retrouve juste après dans Sweet Home Chicago, alors qu'on va attaquer la deuxième heure dans très peu de temps. Voilà, bah ça c'était une erreur de plage, le morceau que je voulais vous passer c'était celui-là.
California to Sweet Home Chicago. Come on, you wanna go? Back to that same old place.